si par hasard, pour finir la soirée avec telle bande d'amis à lui que nous avions rencontrés, Saint-Loup décidait de se rendre au casino d'une plage voisine, et, partant avec eux, s'il me mettait seul dans une voiture, je recommandais au cocher d'aller à toute vitesse, afin que fussent moins longs les instants que je passerais sans avoir l'aide de personne pour me dispenser de fournir moi-même à ma sensibilité. En faisant machine en arrière et en sortant de la passivité où j'étais pris comme dans un engrenage, ces modifications que, depuis mon arrivée à Rivebelle, je recevais des autres. Le choc possible avec une voiture venant en sens inverse dans ces sentiers où il n'y avait de place que pour une seule et où il faisait nuit noire, l'instabilité du sol souvent éboulé de la falaise, la proximité de son versant à pic sur la mer, rien de tout cela ne trouvait en moi le petit effort qui eût été nécessaire pour amener la représentation et la crainte du danger jusqu'à ma raison. C'est que pas plus que ce n'est le désir de devenir célèbre, mais l'habitude d'être laborieux qui nous permet de produire une œuvre, ce n'est l'allégresse du moment présent, mais les sages réflexions du passé qui nous aident à préserver le futur. Or, si déjà, en arrivant à Rivebelle, j'avais jeté loin de moi ces béquilles du raisonnement, du contrôle de soi-même qui aide notre infirmité à suivre le droit chemin, et me trouvais en proie à une sorte d'ataxie morale, l'alcool, en tendant exceptionnellement mes nerfs, avait donné aux minutes actuelles une qualité, un charme, qui n'avait pas eu pour effet de me rendre plus apte ni même plus résolu à les défendre. Car en me les faisant préférer mille fois au reste de ma vie, mon exaltation les en isolait. J'étais enfermée dans le présent, comme les héros, comme les
renaissances exclusives de l'image d'une certaine personne.
Mon passé ne projetait plus devant moi cette ombre de lui-même que nous appelons notre avenir. Plaçant le but de ma vie non plus dans la réalisation des rêves de ce passé, mais dans la félicité de la minute présente, je ne voyais pas plus loin qu'elle. De sorte que, par une contradiction qui n'était qu'apparente, c'est au moment où j'éprouvais un plaisir exceptionnel, où je sentais que ma vie pouvait être heureuse, où elle aurait dû avoir à mes yeux plus de prix, c'est à ce moment que, délivrée des soucis qu'elle avait pu m'inspirer jusque-là, je la livrais sans hésitation au hasard d'un accident. Je ne faisais du reste, en somme, que concentrer dans une soirée l'incurie qui, pour les autres hommes, est diluée dans leur existence entière, où journellement ils affrontent sans nécessité le risque d'un voyage en mer, d'une promenade en aéroplane ou en automobile, quand les attend à la maison l'être que leur mort briserait, ou quand est encore lié à la fragilité de leur cerveau le livre dont la prochaine mise au jour est la seule raison de leur vie. Et de même, dans le restaurant de Rivebelle, les soirs où nous y restions, si quelqu'un était venu dans l'intention de me tuer, comme je ne voyais plus que dans un lointain sans réalité ma grand-mère, ma vie à venir, mes livres à composer, comme j'adhérais tout entier à l'odeur de la femme qui était à la table voisine, à la politesse des maîtres d'hôtel, au contour de la valse qu'on jouait, que j'étais collée à la sensation présente, n'ayant plus d'extension qu'elle, ni d'autre but que de ne pas en être séparée, je serais mort contre elle, je me serais laissé massacrer sans offrir de défense, sans bouger, abeille engourdie par la fumée du tabac, qui n'a plus le souci de préserver la provision de ses efforts accumulés et l'espoir de sa ruche. Je dois du reste dire que cette insignifiance où tombaient les choses les plus graves par contraste avec la violence de mon exaltation finissait par comprendre même Mademoiselle Simonet et ses amis. L'entreprise de les connaître me semblait maintenant facile mais indifférente, car ma sensation présente seule, grâce à son extraordinaire puissance, à la joie que provoquaient ses moindres modifications et même sa simple continuité, avait de l'importance pour moi. Tout le reste, parents, travail, plaisir, jeune fille de Balbec, ne pesait pas plus qu'un flocon d'écume dans un grand vent qui ne le laisse pas se poser, n'existait plus que relativement à cette puissance intérieure. L'ivresse réalise pour quelques heures l'idéalisme subjectif, le phénoménisme pur. Tout n'est plus qu'apparence et n'existe plus qu'en fonction de notre sublime nous-mêmes. Ce n'est pas du reste qu'un amour véritable, si nous en avons un, ne puisse subsister dans un semblable état. Mais nous sentons si bien, comme dans un milieu nouveau, que des pressions inconnues ont changé les dimensions de ce sentiment que nous ne pouvons pas le considérer pareillement. Ce même amour, nous le retrouvons bien, mais déplacé, ne pesant plus sur nous, satisfait de la sensation que lui accorde le présent et qui nous suffit, car de ce qui n'est pas actuel, nous ne nous soucions pas. Malheureusement, le coefficient qui change ainsi les valeurs ne les change que dans cette heure d'ivrille. J'interrogeai à leur sujet plusieurs clients tous les ans à Balbec. Ils ne purent me renseigner. Quoi ? Qui eût pu reconnaître maintenant en elle ? Il faudra essayer de nouveau de se remettre aux travaux qui ne signifiaient plus rien. Chose plus grave encore. Cette mathématique du lendemain, la même que celle d'hier, et avec les problèmes de laquelle nous nous retrouverons inexorablement aux prises, c'est celle qui nous régit même pendant ces heures-là, sauf pour nous-mêmes. S'il se trouve près de nous une femme vertueuse ou hostile, cette chose si difficile la veille, à savoir que nous arrivions à lui plaire, nous semble maintenant un million de fois plus aisée, sans l'être devenue en rien, car ce n'est qu'à nos propres yeux, à nos propres yeux intérieurs, que nous avons changé. Et elle est aussi mécontente, à l'instant même, que nous nous soyons permis une familiarité que nous le serons le lendemain d'avoir donné 100 francs au chasseur, et pour la même raison qui, pour nous, a été seulement retardée, l'absence d'ivresse. Je ne connaissais aucune des femmes qui étaient à Rivebelle, et qui, parce qu'elles faisaient partie de mon ivresse comme les reflets font partie du miroir, me paraissaient 1000 fois plus désirables que la de moins en moins existante Mademoiselle Simonet. Une jeune blonde, seule, à l'air triste, sous son chapeau de paille piqué de fleurs des champs, me regarda un instant d'un air rêveur et me parut agréable. Puis ce fut le tour d'une autre, puis d'une troisième, enfin d'une brune au teint éclatant. Presque toutes étaient connues, à défaut de moi, par Saint-Loup. Avant qu'il eût fait la connaissance de sa maîtresse actuelle, il avait en effet tellement vécu dans le monde restreint de la noce que, de toutes les femmes qui dînaient ces soirs-là à Rivebelle, et dont beaucoup s'y trouvaient par hasard étant venues au bord de la mer, certaines pour retrouver leur amant, d'autres pour tâcher d'en trouver un, il n'y en avait guère qu'il ne connût pour avoir passé, lui-même ou telle de ses amies, au moins une nuit avec elles. Il ne les saluait pas si elles étaient avec un homme, et elles, tout en le regardant plus qu'un autre, parce que l'indifférence qu'on lui savait pour toute femme qui n'était pas son actrice lui donnait, aux yeux de celle-ci, un prestige singulier, elles avaient l'air de ne pas le connaître. Et l'une chuchotait « C'est le petit Saint-Loup. Il paraît qu'il aime toujours sa grue. C'est la grande amour. Quel joli garçon, moi je le trouve épatant. Et quel chic. Il y a tout de même des femmes qui ont une sacrée veine. Et un chic type en tout. Je l'ai bien connu quand j'étais avec d'Orléans. C'étaient les deux inséparables. Il en faisait une noce à ce moment-là. Mais ce n'est plus ça, il ne lui fait pas de queue. Ah, elle peut dire qu'elle en a une chance. Et je me demande qu'est-ce qu'il peut lui trouver. Il faut qu'il soit tout de même une fameuse truffe. Elle a des pieds comme des bateaux, des moustaches à l'américaine et des dessous sales. Je crois qu'une petite ouvrière ne voudrait pas de ses pantalons. Regardez-moi un peu quels yeux il a. On se jetterait au feu pour un homme comme ça. Tiens, tais-toi, il m'a reconnu. Il rit. Oh, il me connaissait bien. On n'a qu'à lui parler de moi. Entre elle et lui, je surprenais un regard d'intelligence. J'aurais voulu qu'il me présentât à ses femmes, pouvoir leur demander un rendez-vous et qu'elles me l'accordassent, même si je n'avais pas pu l'accepter. Car sans cela, leur visage resterait éternellement dépourvu dans ma mémoire de cette partie de lui-même, et comme si elle était cachée par un voile, qui varie avec toutes les femmes. que nous ne pouvons imaginer chez l'une quand nous ne l'y avons pas vue, et qui apparaît seulement dans le regard qui s'adresse à nous et qui acquiesce à notre désir et nous promet qu'il sera satisfait. Et pourtant, même aussi réduit, leur visage était pour moi bien plus que celui des femmes que j'aurais su vertueuses, et ne me semblait pas comme le leur, plat, sans dessous, composé d'une pièce unique et sans épaisseur. Sans doute, il n'était pas pour moi ce qu'il devait être pour Saint-Loup, qui, par la mémoire, sous l'indifférence, pour lui transparente, des traits immobiles qui affectaient de ne pas le connaître, ou sous la banalité du même salut que l'on eût adressé aussi bien à tout autre, se rappelait, entre des cheveux défaits, une bouche pâmée et des yeux mi-clos, tout un tableau silencieux comme ce que les peintres, pour tromper le gros des visiteurs, revêtent d'une toile décente. Certes, pour moi au contraire, qui sentais que rien de mon être n'avait pénétré en telle ou telle de ces femmes, et n'y serait emporté dans les routes inconnues qu'elle suivrait pendant sa vie, ses visages restaient fermés. Mais c'était déjà assez de savoir qu'ils s'ouvraient pour qu'ils me semblassent d'un prix que je ne leur aurais pas trouvé s'ils n'avaient été que de belles médailles, au lieu de médaillons sous lesquels se cachaient des souvenirs d'amour. Quant à Robert, tenant à peine en place quand il était assis, dissimulant sous un sourire d'homme de cour l'avidité d'agir en homme de guerre, à le bien regarder, je me rendais compte combien l'ossature énergique de son visage triangulaire devait être la même que celle de ses ancêtres, plus faite pour un ardent archer que pour un lettré délicat. Sous la peau fine, la construction hardie, l'architecture féodale apparaissait. Sa tête faisait penser à ces tours d'antiques donjons dont les créneaux inutilisés restent visibles, mais qu'on a aménagés intérieurement en bibliothèque. En rentrant à Balbec, de tels de ces inconnus à qui il m'avait présenté, je me redisais sans m'arrêter une seconde et pourtant sans presque m'en apercevoir, « Quelle femme délicieuse !» Comme on chante un refrain. Certes, ces paroles étaient plutôt dictées par des dispositions nerveuses que par un jugement durable. Il n'en est pas moins vrai que si j'eusse eu 1000 francs sur moi et qu'il y eût encore des bijoutiers d'ouvert à cette heure-là, j'eusse acheté une bague à l'inconnu. Quand les heures de notre vie se déroulent ainsi que sur des plans trop différents, on se trouve donner trop de soi pour des personnes diverses qui le lendemain vous semblent sans intérêt. Mais on se sent responsable de ce qu'on leur a dit la veille et on veut y faire honneur. Comme ces soirs-là je rentrais tard, je retrouvais avec plaisir dans ma chambre qui n'était plus hostile, le lit où, le jour de mon arrivée, j'avais cru qu'il me serait toujours impossible de me reposer, et où maintenant mes membres si las cherchaient un soutien. De sorte que, successivement, mes cuisses, mes hanches, mes épaules, tâchaient d'adhérer en tous leurs points au drap qui enveloppait le matelas, comme si ma fatigue, pareille à un sculpteur, avait voulu prendre un moulage total d'un corps humain. Mais je ne pouvais m'endormir. Je sentais approcher le matin. Le calme, la bonne santé n'étaient plus en moi. Dans ma détresse, il me semblait que jamais je ne les retrouverais plus. Il m'eût fallu dormir longtemps pour les rejoindre. Or, me fussais-je assoupi, que de toute façon je serais réveillé 2 heures après par le concert symphonique. Tout à coup je m'endormais, je tombais dans ce sommeil lourd où se dévoile pour nous le retour à la jeunesse, la reprise des années passées, des sentiments perdus, la désincarnation, la transmigration des âmes, l'évocation des morts, les illusions de la folie, la régression vers les règnes les plus élémentaires de la nature. Car on dit que nous voyons souvent des animaux en rêve, mais on oublie que presque toujours nous y sommes nous-mêmes un animal, privé de cette raison qui projette sur les choses une clarté de certitude. Nous n'y offrons au contraire au spectacle de la vie qu'une vision douteuse et à chaque minute anéantie par l'oubli, la réalité précédente s'évanouissant devant celle qui lui succède, comme une projection de lanterne magique devant la suivante quand on a changé le verre. Tous ces mystères que nous croyons ne pas connaître et auxquels nous sommes en réalité initiés presque toutes les nuits, ainsi qu'à l'autre grand mystère de l'anéantissement et de la résurrection. Rendue plus vagabonde par la digestion difficile du dîner de Rivebelle, l'illumination successive et errante de zones assombries de mon passé faisait de moi un être dont le suprême bonheur eût été de rencontrer le grandin avec lequel je venais de causer en rêve. Puis même ma propre vie m'était entièrement cachée par un décor nouveau, comme celui planté tout au bord du plateau et devant lequel, pendant que, derrière, on procède au changement de tableau, des acteurs donnent un divertissement. Celui où je tenais alors mon rôle était dans le goût des contes orientaux. Je n'y savais rien de mon passé ni de moi-même, à cause de cet extrême rapprochement d'un décor interposé. Je n'étais qu'un personnage qui recevait la bastonnade et subissait des châtiments variés pour une faute que je n'apercevais pas, mais qui était d'avoir bu trop de porto. Tout à coup, je m'éveillais. Je m'apercevais qu'à la faveur d'un long sommeil, je n'avais pas entendu le concert symphonique. C'était déjà l'après-midi. Je m'en assurais à ma montre après quelques efforts pour me redresser. Efforts infructueux d'abord et interrompus par des chutes sur l'oreiller. Mais de ces chutes courtes qui suivent le sommeil comme les autres ivresses, que ce soit le vin qui les procure ou une convalescence. Du reste, avant même d'avoir regardé l'heure, j'étais certain que midi était passé. Hier soir, je n'étais plus qu'un être vidé, sans poids, et, comme il faut avoir été couché pour être capable de s'asseoir et avoir dormi pour l'être de se taire, je ne pouvais cesser de remuer ni de parler. Je n'avais plus de consistance, de centre de gravité. J'étais lancé. Il me semblait que j'aurais pu continuer ma morne course jusque dans la lune. Or, si en dormant mes yeux n'avaient pas vu l'heure, mon corps avait su la calculer. Il avait mesuré le temps non pas sur un cadran superficiellement figuré, mais par la pesée progressive de toutes mes forces refaites que, comme une puissante horloge, il avait cran par cran laissé descendre de mon cerveau dans le reste de mon corps où elles entassaient maintenant jusqu'au-dessus de mes genoux l'abondance intacte de leurs provisions. S'il est vrai que la mer avait été autrefois notre milieu vital, où il faille replonger notre sang pour retrouver nos forces, il en est de même de l'oubli, du néant mental. On semble alors absent du temps pendant quelques heures, mais les forces qui se sont rangées pendant ce temps-là sans être dépensées le mesurent par leur quantité aussi exactement que les poids de l'horloge ou les croulants monticules du sablier. On ne sort pas, d'ailleurs, plus aisément d'un tel sommeil que de la veille prolongée, tant toutes choses tendent à durer, et s'il est vrai que certains narcotiques font dormir, dormir longtemps est un narcotique plus puissant encore, après lequel on a bien de la peine à se réveiller. Pareil à un matelot qui voit bien le quai où amarrer sa barque, secoué cependant encore par les flots, j'avais bien l'idée de regarder l'heure et de me lever, mais mon corps était à tout instant rejeté dans le sommeil. L'atterrissage était difficile, et avant de me mettre debout pour atteindre ma montre et confronter son heure avec celle qu'indiquait la richesse de matériaux dont disposaient mes jambes rompues, je retombais encore deux ou trois fois sur mon oreiller. Enfin, je voyais clairement. 2 heures de l'après-midi. Je sonnais. Mais aussitôt je rentrais dans un sommeil qui cette fois devait être infiniment plus long si j'en jugeais par le repos et la vision d'une immense nuit dépassée que je trouvais au réveil. Pourtant, comme celui-ci était causé par l'entrée de Françoise, entrée qu'avait elle-même motivée mon coup de sonnette, ce nouveau sommeil, qui me paraissait avoir dû être plus long que l'autre, encore tout enfantine, de petite fille que n'avait duré qu'une demi-minute. Ma grand-mère ouvrait la porte de ma chambre. Je lui posais 1000 questions sur la famille Legrandin. Ce n'est pas assez de dire que j'avais rejoint le calme et la santé, car c'était plus qu'une simple distance qui les avait la veille séparés de moi. J'avais eu toute la nuit à lutter contre un flot contraire, Et puis, je ne me retrouvais pas seulement auprès d'eux. Ils étaient rentrés en moi. À des instants précis et encore peu douloureux de ma tête vide, et qui serait un jour brisée, laissant mes idées s'échapper à jamais, celles-ci avaient une fois encore repris leur place et retrouvé cette existence dont, hélas, jusqu'ici, elles n'avaient pas su profiter. Une fois de plus, j'avais échappé à l'impossibilité de dormir, au déluge, au naufrage des crises nerveuses. Je ne craignais plus tout ce qui me menaçait la veille au soir quand j'étais démunie de repos. Une nouvelle vie s'ouvrait devant moi. Sans faire un seul mouvement, car j'étais encore brisée, quoique déjà dispos, je goûtais ma fatigue avec allégresse. Elle avait isolé et rompu les os de mes jambes, de mes bras, que je sentais assemblés devant moi, prêts à se rejoindre, et que j'allais relever rien qu'en chantant comme l'architecte de la fable. Tout à coup, je me rappelais la jeune blonde à l'air triste que j'avais vue à Rivebelle et qui m'avait regardée un instant. Pendant toute la soirée, bien d'autres m'avaient semblé agréables. Maintenant, elle venait seule de s'élever du fond de mon souvenir. Il me semblait qu'elle m'avait remarqué. Je m'attendais à ce qu'un des garçons de Rivebelle vînt me dire un mot de sa part. Saint-Loup ne la connaissait pas et croyait qu'elle était comme il faut. Il serait bien difficile de la voir sans cesse. Mais j'étais prêt à tout pour cela. Je ne pensais plus qu'à elle. La philosophie parle souvent d'actes libres et d'actes nécessaires. Peut-être n'en est-il pas de plus complètement subi par nous que celui qui, en vertu d'une force ascensionnelle comprimée pendant l'action, fait, une fois notre pensée au repos, remonter ainsi à un souvenir jusque-là nivelé avec les autres par la force oppressive de la distraction, et le fait s'élancer parce qu'à notre insu il contenait plus que les autres un charme dont nous ne nous apercevons que 24 heures après. Et peut-être n'y a-t-il pas non plus d'acte aussi libre, car il est encore dépourvu de l'habitude, de cette sorte de manie mentale qui, dans l'amour, favorise la renaissance exclusive de l'image d'une certaine personne. Ce jour-là était justement le lendemain de celui où j'avais vu défiler devant la mer le beau cortège de jeunes filles. J'interrogeai à leur sujet plusieurs clients de l'hôtel qui venaient presque tous les ans à Balbec. Ils ne purent me renseigner. Plus tard, une photographie m'expliqua pourquoi. Qui eût pu reconnaître maintenant en elle, à peine mais déjà sortie d'un âge où on change si complètement, telle masse amorphe et délicieuse, encore tout enfantine, de petite fille que, quelques années seulement auparavant, on pouvait voir assise en cercle sur le sable, autour d'une tente. Sorte de blanche et vague constellation où l'on eût distingué deux yeux plus brillants que les autres, un malicieux visage, des cheveux blonds, que pour les reperdre et les confondre bien vite au sein de la nébuleuse indistincte et lactée. Sans doute, en ces années-là encore si peu éloignées, ce n'était pas comme la veille dans leur première apparition devant moi, la vision du groupe, mais le groupe lui-même qui manquait de netteté. Alors, ces enfants trop jeunes étaient encore à ce degré élémentaire de formation où la personnalité n'a pas mis son sceau sur chaque visage. Comme ces organismes primitifs où l'individu n'existe guère par lui-même, est plutôt constitué par le polypier que par chacun des polypes qui le composent, elles restaient pressées les unes contre les autres. Parfois l'une faisait tomber sa voisine, et alors un fou rire qui semblait la seule manifestation de leur vie personnelle les agitait toutes à la fois, effaçant, confondant ces visages indécis et grimaçants, dans la gelée d'une seule grappe scintillatrice et tremblante. Dans une photographie ancienne qu'elle devait me donner un jour et que j'ai gardée, leur troupe enfantine offre déjà le même nombre de figurantes que, plus tard, leur cortège féminin. On y sent qu'elles devaient déjà faire sur la plage une tâche singulière qui forçait à les regarder, mais on ne peut les y reconnaître individuellement que par le raisonnement, en laissant le champ libre à toutes les transformations possibles pendant la jeunesse jusqu'à la limite où ces formes reconstituées empiéteraient sur une autre personnalité qu'il faut identifier aussi et dont le beau visage, à cause de la concomitance d'une grande taille et de cheveux frisés,
à chance d'avoir été jadis ce ratatinement de grimaces rabougries présenté par la carte album. Et la distance parcourue en peu de temps par les caractères physiques de chacune de ces jeunes filles, faisant d'eux un critérium fort vague, et d'autre part ce qu'elles avaient de commun et comme de collectif, étant dès lors fort marqué, il arrivait parfois à leurs meilleurs amis de les prendre l'une pour l'autre sur cette photographie, si bien que le doute ne pouvait finalement être tranché que par tel accessoire de toilette que l'une était certaine d'avoir porté à l'exclusion des autres. Depuis ces jours si différents de celui où je venais de les voir sur la digue, si différents et pourtant si proches, elles se laissaient encore aller au rire comme je m'en étais rendu compte la veille, mais à un rire qui n'était plus celui, intermittent et presque automatique, de l'enfance, détente spasmodique qui autrefois faisait à tout moment faire un plongeon à ses têtes, comme les blocs de Véron dans la Vivonne se dispersaient et disparaissaient pour se reformer un instant après. Leur physionomie maintenant était devenue maîtresse d'elle-même. Leurs yeux étaient fixés sur le but qu'ils poursuivaient. Et il avait fallu hier l'indécision et le tremblé de ma perception première pour confondre indistinctement, comme l'avait fait l'hilarité ancienne et la vieille photographie, les sporades aujourd'hui individualisées et désunies du pâle madrépore. Sans doute, bien des fois, au passage de jolies jeunes filles, je m'étais fait la promesse de les revoir. D'habitude, elles ne reparaissent pas. D'ailleurs, la mémoire, qui oublie vite leur existence, retrouverait difficilement leurs traits. Nos yeux ne les reconnaîtraient peut-être pas, et déjà nous avons vu passer de nouvelles jeunes filles que nous ne reverrons pas non plus. Mais d'autrefois, et c'est ainsi que cela devait arriver pour la petite bande insolente, le hasard les ramène avec insistance devant nous. Il nous paraît alors beau, car nous discernons en lui comme un commencement d'organisation, d'effort pour composer notre vie. Et il nous rend facile, inévitable et quelquefois, après des interruptions qui ont pu faire espérer de cesser de nous souvenir, cruel, la fidélité à des images à la possession desquelles nous nous croirons plus tard avoir été prédestinés, et que sans lui nous aurions pu tout au début oublier, comme tant d'autres, si aisément. Bientôt le séjour de Saint-Loup toucha à sa fin. Je n'avais pas revu ces jeunes filles sur la plage. Il restait trop peu l'après-midi à Balbec pour pouvoir s'occuper d'elles et tâcher de faire à mon intention leur connaissance. Le soir, il était plus libre et continuait à m'emmener souvent à Rivebelle. Il y a dans ces restaurants, comme dans les jardins publics et les trains, des gens enfermés dans une apparence ordinaire et dont le nom nous étonne si, l'ayant par hasard demandé, nous découvrons qu'ils sont non l'inoffensif premier venu que nous supposions, mais rien de moins que le ministre ou le duc dont nous avons si souvent entendu parler. Déjà, deux ou trois fois, dans le restaurant de Rivebelle, nous avions, Saint-Loup et moi, vu venir s'asseoir à une table quand tout le monde commençait à partir, un homme de grande taille, très musclé, aux traits réguliers, à la barbe grisonnante, mais de qui le regard songeur restait fixé avec application dans le vide. Un soir que nous demandions au patron qui était ce dîneur obscur, isolé et retardataire, « Comment, vous ne connaissez pas le célèbre peintre Elstir ?» nous dit-il. Swann avait une fois prononcé son nom devant moi. J'avais entièrement oublié à quel propos. Mais l'omission d'un souvenir, comme celle d'un membre de phrase dans une lecture, favorise parfois non l'incertitude, mais l'éclosion d'une certitude prématurée. C'est un ami de Swann et un artiste très connu, de grande valeur, dis-je à Saint-Loup. Aussitôt passa sur lui et sur moi, comme un frisson, la pensée qu'Elstir était un grand artiste, un homme célèbre, puis que, nous confondant avec les autres dîneurs, il ne se doutait pas de l'exaltation où nous jetait l'idée de son talent. Sans doute qu'il ignora notre admiration et que nous connaissions Swann ne nous eût pas été pénible si nous n'avions pas été au bain de mer. Mais, attardé à un âge où l'enthousiasme ne peut rester silencieux et transporté dans une vie où l'incognito semble étouffant, nous écrivîmes une lettre signée de nos noms, où nous dévoilions à Elstir, dans les deux dîneurs assis à quelques pas de lui, deux amateurs passionnés de son talent, deux amis de son grand ami Swann, et où nous demandions à lui présenter nos hommages. Un garçon se chargea de porter cette missive à l'homme célèbre.